tu peux y aller.
Le feuilleton sur l'accord sur les minéraux entre les États-Unis de Donald Trump et l'Ukraine de Zelensky s'est terminé cette semaine par la signature, enfin, d'un deal qui donne le sentiment que le soutien américain sera finalement pérenne. Aussitôt, l'Ukraine a lancé une campagne de frappe contre la Crimée, alors que les États-Unis semblent indiquer qu'ils veulent cesser leur médiation, peut-être lassés par la manifestation de mauvaise foi de Vladimir Poutine. Dans le même temps, la Syrie replonge dans les affres de la guerre civile, cette fois avec des attaques des forces Ayat Tahrir al-Sham contre les Druzes du sud du pays, qui cherchent un protecteur étranger et lorgnent très fort vers Israël, lequel d'ores et déjà a conduit des frappes aériennes pour les aider à se défendre. Pendant ce temps, le Cachemire retient son souffle alors que Narendra Modi a autorisé cette semaine son armée à frapper quand et où elle l'estimerait nécessaire, en représailles à l'attaque terroriste de Pahalgam. Pour l'instant, rien, malgré les annonces des gouvernements pakistanais sur l'imminence d'une intervention, voire d'une invasion, dans un délai de 24 à 36 heures qui s'est expiré à la date à laquelle j'enregistre. Ukraine, Syrie, Cachemire, trois points éruptifs situés sur la ligne de faille du bloqueur asiatique. Des steppes de l'Ukraine au contrefort de l'Himalaya, la vieille route de la soie est-elle devenue le sentier de la guerre? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 2 mai 2025, il est 21h58 et c'est très compliqué cette semaine. Nous sommes en compagnie de l'inarticulé, le
Oui, c'est
portable.
ça, ouais.
Comment vas-tu?
Ben là, j'ai envie de dire mieux que toi.
D'accord, oui, ben en effet, je pense que tu es plus en forme que moi. Désolé, oui, pour le retard. Plus important que
Attends,
d'habitude.
non, pour une fois, on a presque de bonnes excuses. On peut accuser Microsoft. Accuse Microsoft. Fous tout sur Microsoft.
Ouais, j'ai essayé d'installer Microsoft Teams et ça me fait le fameux le son très irritant, vous savez, ding, comme ça, quand ça marche pas. Et j'ai essayé, j'ai redémarré, ça fonctionne pas. Donc j'ai pas réussi à l'installer. Donc là, on est quoi par Zoom, je crois.
On
On
est
fonctionne.
par Zoom.
J'espère qu'il n'y a pas de problème de son, etc. Que
J'ai
ça
vérifié,
fonctionne.
a priori ça va.
Voilà. Donc, cette semaine, on fait un live un petit peu actu pour reprendre un certain nombre de points dont j'ai parlé dans leur commencement dans le bulletin, mais ça me paraît important d'en venir dessus, surtout le deal, puisque le deal, au moment où j'ai enregistré le bulletin, n'avait pas été signé, il y avait à nouveau un contretemps et qui laissait penser que peut-être ça serait repoussé longtemps. Et finalement, le deal a bien été signé sur les minerais. Et il comprend notamment la possibilité que soit considéré comme une contribution au fonds d'investissement créé conjointement par les États-Unis et l'Ukraine, la fourniture de matériel militaire à l'Ukraine. Alors, semble-t-il que les livraisons ont repris. Alors, pour moi, elles ne s'étaient pas arrêtées, mais enfin, semble-t-il peut-être qu'elles sont réactivées. J'ai du mal à trouver des chiffres. J'ai vu War Monitor, qui d'habitude a des infos assez fiables, qui disait en début d'après-midi ou en fin de matinée que Donald Trump avait décidé d'envoyer 300 nouveaux Bradley, ce qui n'est pas une paille quand même, hein. Vous savez, les blindés d'infanterie américains d'envoyer ces 300 nouveaux Bradley en Ukraine, et donc peut-être à venir aussi d'autres matériels. Sachant que tout ceci fait suite aux remarques assez agacées de Donald Trump ces temps-ci vis-à-vis de Vladimir Poutine, expliquant que peut-être qu'il voulait pas la paix, peut-être qu'il cherchait à le balader, etc. Et le rejet notamment de la proposition de trêve de 3 jours qui a été annoncée par Vladimir Poutine pour les fêtes de commémorant la Grande Guerre patriotique. Mais aussi, il y avait une proposition russe qui avait été mentionnée par Sergueï Lavrov, qui revenait en fait sur ce qui avait été dit directement lors du dernier coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est-à-dire que les Russes étaient d'accord pour un cessez-le-feu temporaire, à condition que pendant ce cessez-le-feu, les Américains cessent toute fourniture de matériel militaire à l'Ukraine. À l'époque, déjà, Donald Trump avait dit non, c'est pour ça que ça n'avait pas été mis en place. Mais là, les Américains ont à nouveau dit non, qu'il était hors de question de cesser la fourniture de matériel militaire. Et donc, on a le deal sur les minéraux qui est intervenu, qui est un deal qui est effectivement plus favorable à l'Ukraine que ce qui avait été envisagé précédemment. Et donc, naturellement, grosse fatigue sur les commentaires qu'on a pu entendre depuis des jours. Alors, c'est pratiquement. Alors, Zelensky a été bon sur la négociation, je ne le nie pas, même si à mon avis, ça aurait pu être fait de manière plus subtile et en mettant moins les États-Unis de travers. Mais c'est tout de suite, bon, les médias habituels, c'est Trump qui est un imbécile et qui s'est décidé finalement à faire cet accord. Et c'est grâce à Zelensky, si l'accord se fait, Trump n'y est absolument pour rien. Venant des mêmes qui nous expliquaient soit que Trump voulait uniquement racketter l'Ukraine, que c'est tout ce qui l'intéressait et que sinon il n'y aurait pas d'accord, ou qui nous avait expliqué aussi qu'en fait, avec cet accord qui était manifestement léonin, Donald Trump cherchait uniquement à obtenir un clash et un refus de la part des Ukrainiens pour pouvoir ensuite abandonner l'Ukraine. Bah, on voit qu'il n'en est rien de tout ceci et que finalement on retombe sur ce qu'on pouvait imaginer et que j'avais imaginé avec vous sur cette chaîne pendant ces derniers mois, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'intention de Donald Trump de laisser tomber l'Ukraine. Il y avait l'intention de Donald Trump de faire un deal pour impliquer les États-Unis là-bas. Et je veux dire, il n'y avait pas besoin d'être un oracle génial pour deviner tout ça. Il suffisait d'écouter les explications de Marco Rubio et Scott Bessent qui le disaient. Hein. Et Donald Trump lui-même, d'ailleurs, sur Truth Social, l'avait pas dit lui-même, enfin, il avait comment dire, reposté des posts d'autres personnes qui, grosso modo, disaient ça. Donc, ce qui montrait qu'il approuvait cette stratégie. Et le fait que ce deal soit conclu une dizaine de jours après qu'il y a eu la fameuse proposition américaine de négociation selon la ligne de blocage de cessez-le-feu en ne laissant à Poutine que ce qu'il tenait déjà sans lui donner rien en plus, eh ben on retombe exactement sur ce que je vous avais dit de ce qui était vraisemblablement la stratégie de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il avait une idée de deal possible et il manœuvrait pour essayer d'arriver à ce deal. Quel était ce deal? C'était arrêter les hostilités sur la ligne où elle est et dire aux Russes, bon, vous n'aurez pas plus que ce que vous prenez, que ce que vous tenez déjà. Je ne vous concéderai aucun nouvel avantage stratégique de repli de l'OTAN, etc. On va juste considérer que vous avez de la chance parce qu'on sait que vous pouvez éventuellement aller plus loin et qu'on en a marre, donc on arrête. Par contre, vous n'aurez rien de plus, sauf le fait d'être réintégré dans le concert des nations, gentiment, avec la levée des sanctions, etc. Et à côté de ça, l'Ukraine, on lui donnait pas de garantie de sécurité directe, mais il n'y avait pas de démilitarisation de l'Ukraine, alors que c'était ce que voulait Vladimir Poutine à la base, ça faisait partie de ses buts de guerre. Et en plus, il y avait l'accord sur les minéraux qui était prévu pour mettre un intérêt américain dans ce qui reste de l'Ukraine et pour en garantir la sécurité, ce que Donald Trump a répété. Donc en fait, on a vu depuis 15 jours se déployer très exactement la stratégie qui était prévue avant. Encore une fois, est-ce qu'on peut à ce stade-là trancher sur l'hypothèse de la naïveté, je disais, de Trump ou du calcul, c'est-à-dire naïveté, il pensait vraiment que la guerre était à cause de la bêtise et de la nullité et de la paranoïa des démocrates et que donc lui pourrait la régler et il s'est planté, ou bien est-ce que il savait bien qu'il n'y avait pas moyen, mais il fallait trouver un moyen de transformer cette guerre qui n'était pas sa guerre à lui et qui n'était pas la guerre de son électorat, hein, ce qui est très important, côté MAGA, ce qui ne cesse de répéter sur Truth Social. Et il l'a répété d'autant plus qu'il s'impliquait d'ailleurs avec le deal. Et grâce à ce deal maintenant, ça permet d'impliquer les États-Unis justement et de faire qu'il peut y avoir une éventuelle poursuite du conflit sans qu'il n'y mette fin directement. Alors la question à partir de là, c'est quelle va être la forme de la poursuite de ce conflit? Est-ce qu'il va y avoir un soutien accru des États-Unis à l'Ukraine pour punir les Russes de ne pas avoir voulu faire la paix? Est-ce que les États-Unis vont juste s'en désintéresser à ce moment-là? On retomberait sur quelque chose qui était grosso modo ce qui se faisait déjà sous Biden, c'est-à-dire une espèce de lent-pourrissement. C'est une possibilité. Et ça, c'est dans les deux hypothèses où les combats continuent uniquement en Ukraine. Et après, il y a naturellement encore une autre hypothèse qui est celle d'un Vladimir Poutine qui, du coup, étant bloqué dans sa situation, finirait par décider l'escalade contre notre endroit, notamment par exemple les Pays-Baltes. On a vu passer des études sur la façon dont s'accroît le potentiel humain de l'armée russe, hein, qui recrute toujours entre 30 et 40 000 soldats par mois, ce qui est très important, puisque c'est au-dessus des pertes. Ça fait qu'à l'année, depuis 2-3 ans, ils doivent gagner entre 100 et 200 000 soldats par an, qui sont sans doute entraînés. Ils continuent de fabriquer des chars aussi, alors ils n'en fabriquent pas beaucoup, mais semble-t-il qu'ils en consomment peu, notamment les nouveaux T-90, il y en a très peu qui arrivent en Ukraine, ce qui laisse penser que les Russes sont en train de refaire un stock. Alors je suis allé vérifier la production totale, a priori c'est autour de 250 par an, ils n'ont pas réussi à monter beaucoup plus. Enfin, sur les 2 dernières années, ça fait que ils ont peut-être 400 ou 500 chars qu'ils ont réussi à restocker, chars modernes, qu'ils gardent en réserve et qu'ils n'utilisent pas en Ukraine, parce que probablement qu'ils iraient se faire dézinguer rapidement par des drones. Mais c'est le genre de choses qui peut servir pour lancer une escalade ailleurs, dans un endroit qui est moins couvert en drones, notamment par exemple les Pays-Baltes. Donc ça pourrait continuer dans ce sens-là. En tous les cas, ce que je trouve vraiment important, c'est à quel point tout ceci a de bonnes chances de restabiliser la situation de l'Occident, c'est-à-dire entre l'Europe et les États-Unis. Parce que malgré tout, si vous écoutiez les médias il y a un mois, on est début mai, donc même fin mars, ouais, il y a 2 mois, vous aviez l'impression que ça y est, c'était la rupture entre les États-Unis et l'Europe, que c'était terminé. Que les États-Unis abandonnaient totalement l'Europe en ce qui concernait l'Ukraine, que Trump allait se faire copain avec Poutine sur notre dos et tout. Et je trouve ça intéressant de constater à quel point tout ceci a été le fruit d'une paranoïa en Europe, à quel point la plupart des commentaires étaient des reprises considérées comme info de rumeurs qui couraient parmi les élites européennes, lesquelles étaient précisément en pleine paranoïa. Quand je rappelle que en février, vous aviez des élites européennes qui pensaient que Donald Trump serait à la cérémonie du 9 mai sur la place rouge avec Vladimir Poutine, qui pensaient que c'était plausible. Vous aviez des gens qui disaient que vraisemblablement les États-Unis allaient se retirer de la totalité de l'Europe orientale pour faire plaisir à Vladimir Poutine. Et je ne parle pas des gens qui ont parlé de la thèse de Krasnov, de l'agent de Trump, agent russe, etc., depuis le début. Moi, tout ça me fait halluciner parce que c'est quand même l'occasion de refaire et de comprendre aussi d'où vient l'éventuelle naïveté de Trump. Parce que ça, finalement, j'en ai jamais parlé, je crois, mais c'est quand même intéressant. Parce que moi, je me souviens comment est née la légende de Trump, l'agent des Russes. Peut-être que vous en souvenez si vous suiviez déjà la vie politique américaine en 2016. Tout a commencé, en tout cas médiatiquement, dans ce discours médiatique de Trump le pro-russe, tout a commencé un jour où, alors que la campagne de Donald Trump commençait à monter un peu, ça commençait pas affolé parce que personne ne croyait qu'il serait élu, mais ça commençait à exciter un petit peu les gens qu'il voyait comme un fasciste, etc. Et comme un trublion populiste, tout ça. Et vous aviez donc des journalistes qui étaient allés poser à Vladimir Poutine à l'époque la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de la candidature de Donald Trump. Et Vladimir Poutine, qui est toujours très prudent quand il répond à ces trucs-là, avait expliqué qu'il pensait que c'était alors je me souviens plus des termes exacts, mais c'était un compliment relatif, c'est-à-dire en disant que c'était un personnage intéressant, un grand homme d'affaires, etc., et que donc c'était intéressant pour les États-Unis, tout ça. Et donc, En prenant ça sous le bras, les journalistes étaient allés voir Donald Trump. Il lui avait posé la question. Il lui avait dit, ah, Vladimir Poutine pense que vous êtes un bon candidat, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Donald Trump avait répondu de manière finalement aussi prudente que Vladimir Poutine, sans. Il avait dit, bah, écoutez, Vladimir Poutine est un chef d'État puissant, je ne sais rien, un truc comme ça, et habile. Donc voilà, en gros, j'en accepte l'augure, quoi. Très bien, il m'aime bien. Voilà, c'était juste comme ça. Et donc il avait dit, c'est un chef d'État qui compte. Mais ça, pour le coup, on ne pouvait pas dire le contraire à l'époque. Et c'est parti de là. C'est-à-dire, Vladimir Poutine dit un truc pas méchant sur Trump quand on l'interroge. Trump répond un truc pas désagréable contre Vladimir Poutine quand on lui pose la question. Et à partir de là, vous avez tout un narratif qui se met en place, comme quoi la candidature de Trump est poussée par les Russes pour foutre la merde aux États-Unis. Alors, c'était probablement vrai dans le travail de la propagande russe mondiale. Parce que, tout simplement, parmi les soutiens de Donald Trump, les gens, les droitards américains très très hostiles à l'État central, etc., et chez un certain nombre de libertariens aussi, il y avait une sympathie, c'est ce vieux mouvement que j'ai déjà exposé, de sympathie pour tous les ennemis de l'establishment. C'est-à-dire que vous avez cette fracture qui existe aux États-Unis entre une partie de la population et l'establishment, qui fait que quand les États-Unis ont un ennemi géostratégique ou désigne quelqu'un comme un ennemi géostratégique, vous aurez une partie de la population américaine qui automatiquement considérera que ces gens-là sont forcément pas si mauvais que ça, puisque les gens qu'eux, ils détestent chez eux, les détestent. Voilà, c'est une logique extrêmement binaire, hein, c'est très, très... Mais ça fonctionne, et ça fonctionne comme ça dans beaucoup de pays. Et donc forcément, tout comme en Europe, les Russes on font une propagande à destination de ces gens-là. Et pour autant, ça ne disait rien de la personnalité de Trump lui-même. Ça ne disait pas qu'il était particulièrement proche des Russes, etc. Mais tout ce narratif s'est mis en place à ce moment-là. Les Russes eux-mêmes ont tout fait pour le nourrir, parce que c'était du pain béni pour eux. À partir du moment où il suffisait qu'ils disent du bien de Trump, surtout au moment où il serait élu ensuite, il suffisait qu'ils disent du bien de Trump pour que aux États-Unis ça accroisse la faille politique à l'intérieur des États-Unis et ça délégitime ce type en le faisant passer pour un agent russe. Bah, à partir du moment où ce que cherche la propagande russe hein, de manière générale, c'est jamais d'arriver au pouvoir quelque part. Ils savent qu'ils n'en sont pas capables. C'est de miner la légitimité et de pourrir la situation partout où ils peuvent. C'est ça le but de la propagande russe. C'est comme ça que ça fonctionne. De tout discréditer, de tout salir, autant que possible, de jouer sur absolument toutes les histoires les plus abracadabrantes pour voilà, pourrir la situation, pour pourrir l'ambiance, si vous voulez. Et c'est ce qu'elle a fait cette propagande derrière Trump. Et donc chaque fois que cette propagande a pu faire ça, et vous savez, ils l'ont fait encore. Hein. Par exemple, ils l'ont fait avec le Rassemblement national. La propagande russe a torpillé en partie les scores du Rassemblement national aux élections des dernières législatives. Souvenez-vous-en, quand dans l'entre-deux-tours, ils ont soutenu les candidats. Ils savaient très, enfin, je veux dire, la propagande russe, les Russes savent très bien que soutenir un candidat en Occident, c'est lui donner le baiser de la mort. Donc, si le Rassemblement national était vraiment un allié des Russes et que les Russes avaient voulu le voir arriver au pouvoir, ils n'auraient rien dit. Or, ils sont venus. Pourquoi? Parce que le but, c'était de faire en sorte que ces gens n'arrivent pas au pouvoir. De toute façon, ils s'en foutent qu'ils arrivent au pouvoir. Leur intérêt, c'était de faire en sorte que les électeurs du Rassemblement national soient déçus et que ça crée une fracture au sein de la société française. Et donc, c'est partout qu'ils font comme ça. La fracture existe déjà, elle n'a pas besoin des Russes, hein. Mais voilà, c'est toujours la stratégie russe d'aller mettre du sel sur les plaies, en continu, comme ça. Ils font toujours comme ça. Et toute cette stratégie, donc, autour de Donald Trump, elle a fonctionné dans ce sens-là pendant la première campagne de Donald Trump, avec l'attaque contre les mails d'Hillary Clinton, etc. Et quand Donald Trump a été élu, aussitôt, Hillary Clinton a sombré, il y a eu des témoignages là-dessus, hein, a sombré dans une espèce de crise d'hystérie en expliquant que tout ça c'était un coup des Russes, que Donald Trump était arrivé au pouvoir grâce aux Russes, etc. Et donc là, vous avez eu la théorie du complot russe qui a pourri une bonne partie de la présidence de Donald Trump. Et les Russes étaient ravis, puisque les Russes sont ravis quand ils peuvent pourrir quelque chose comme ça. Par conséquent, tout ça, ça a nourri tout ce qui s'est passé depuis 10 ans aux États-Unis, hein, au niveau de la fracture. Encore une fois, la fracture, elle est endogène aux États-Unis sur ces sujets-là. Mais les Russes ont toujours fait en sorte de nourrir cette fracture, pas d'aider véritablement un camp. Parce que pour des raisons que j'ai déjà expliquées, j'avais fait une émission entière pourquoi Poutine préfère vraiment Biden. C'est parce que l'establishment pour les Russes, il était prévisible. Et donc le fait que ce soit Trump qui soit élu n'était pas quelque chose qui les arrangeait. Mais je trouve ça extraordinaire qu'on soit presque 10 ans après maintenant, et que cette thèse de la collusion russe entre donc de Donald, autour de Donald Trump soit toujours aussi forte chez les médias, alors que ça n'est de littéralement rien à la base. Franchement, c'est quelque chose qui me fait halluciner. Je pense que c'est une des plus grandes auto-intoxications de toute l'histoire, ce truc. Enfin, franchement, c'est un cas d'école que tous les gens soient aussi. Et puis, il y a encore des gens, et même je dirais, ces 3 derniers mois, j'ai vu des gens qui, a priori, n'étaient pas convaincus par cette histoire avant, qui sont devenus convaincus par cette histoire dans les 3 derniers mois, quand il y a eu les coups de chaud entre Trump et Zelensky. Mais ça fait partie des... Vous savez, il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a aussi l'idée que Trump déteste Zelensky. J'entends beaucoup de types répéter ça sur LCI, etc. C'est Girnov que j'entends répéter ça, mais d'autres aussi. Vous savez, Trump déteste Zelensky. Je ne sais pas pourquoi Trump détesterait Zelensky. Pendant la première présidence Trump, ça se passait bien. Trump a essayé d'obtenir des éléments probablement sur les Biden auprès de Zelensky, que Zelensky n'a pas voulu lui donner, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, a priori, il n'y a pas une détestation qui est née là-dessus. Et les rapports entre Zelensky et Trump, ils allaient à peu près bien jusqu'à ce qu'il y ait les clashs en raison de la négociation qui était en fait exclusivement liée à la négociation du deal sur les minéraux, hein, il y a 2 mois. C'était exclusivement sur ça, hein. Et Marco Rubio l'avait bien expliqué. Je l'avais expliqué ici, je ne vais pas revenir dessus. Mais donc tout ceci fait que vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui vous expliquent que la signature de ce deal est finalement une bonne surprise. On n'aurait pas cru à croire que Trump voulait signer ce deal. Trump, il voulait signer ce deal parce qu'il n'y a aucune intention des États-Unis d'abandonner totalement l'Europe parce que c'est la logique des intérêts intérieurs des États-Unis. Et si vous réfléchissez rationnellement, c'est pas très dur de pas dire d'énormes conneries pour quand vous commentez l'actualité géostratégique. Il faut regarder quelles sont les données des problèmes rationnellement. Suffit d'être rationnel et de regarder les données des problèmes, pas se laisser emporter par ce genre d'émotion sur Trump est méchant, ou il est, ou parce qu'il a dit ça, il est ceci, il est cela. Voilà, c'est vraiment assez catastrophique. Et encore une fois, on n'en sort pas. Hein. Et le fait que le deal soit signé, ça n'en sort pas. Et j'ai eu des discussions avec des gens qui racontaient évidemment n'importe quoi depuis des mois, je leur ai remarqué. Les gens n'ont toujours pas compris. Parce qu'après, bon, il y a un autre problème, c'est l'escalade d'engagement. C'est les gens qui ont eu trop tort pendant trop longtemps qui pourraient être capables de l'admettre. En tout cas, ce qui me semble assez clair d'un point de vue, ce qui me semble en tout cas intéressant à analyser d'un point de vue historionomique, c'est sur quel scénario ça nous replace. Très clairement, du côté de l'Ukraine, ça nourrit comment dire, l'espérance maximaliste, on va dire, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine peut reprendre tout le territoire qui lui a été pris et qu'il n'y a pas de raison de faire d'efforts et de concessions pour faire la paix. Ce que je peux comprendre, encore une fois, c'est assez dégueulasse que l'Ukraine doive laisser une partie de son territoire alors qu'ils ont été agressés depuis 2014. Néanmoins, ça veut dire une poursuite de la guerre, ça veut dire une poursuite des conflits, mais c'est tout à fait cohérent avec la trajectoire interne de l'Ukraine. Et comme vous le savez, ce que j'explique toujours, c'est que ce qui détermine un impérialiste revanchard, le fonctionnement d'un impérialiste revanchard, et je rappelle que l'Ukraine elle-même, du point de vue historique, est dans une phase d'impérialisme revanchard. Normalement, vu sa taille et sa pauvreté et ses problèmes internes, ça aurait dû être un impérialisme revanchard contraint, hein, c'est-à-dire qui ne part à la conquête de rien. D'ailleurs, il n'est parti à la conquête de rien, il a été agressé. Mais l'agression russe a soudain, d'une certaine manière, donné à l'Ukraine des moyens très au-delà de ce qui sont sa propre profondeur stratégique. Puisque même si les Européens et les Américains ne se sont pas impliqués massivement, ou en tout cas totalement, comme ils l'auraient fait s'ils étaient eux-mêmes en danger dans cette guerre, ils ont fourni suffisamment de choses à l'Ukraine pour qu'elle puisse tenir la dragée haute à la Russie. Et donc, ce que j'appelle cette masse stratégique relative a été considérablement rehaussée. Je faisais ce parallèle une fois parce que c'est plus parlant qu'autre chose, mais c'est comme quand vous jouez à des jeux de stratégie comme Crusader Kings, par exemple, vous savez, ou n'importe quoi, où vous faites en sorte d'arriver à... Vous avez une cible qui est quelqu'un de 3 fois plus, de 2 fois plus fort que vous, et vous savez que si vous y allez, vous allez vous prendre une branlée. Et donc, ce que vous débrouillez pour vous allier avec quelqu'un qui est 3 fois plus fort que vous. Et ensuite, vous déclarez la guerre à celui qui est 2 fois plus fort que vous parce que vous avez cette fois-ci la capacité de le battre. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle est l'Ukraine de Zelensky tant qu'elle peut s'estimer soutenue dans la durée par les Occidentaux, c'est que ça lui donne une masse stratégique relative bien plus importante que ce qu'elle serait si elle était isolée. Et donc, forcément, ça active, on va dire, ça nourrit. Le nationalisme ukrainien et ce qu'on peut appeler l'impérialisme revanchard ukrainien, parce que finalement, reprendre la Crimée qui a été perdue au début de la guerre de la révolution nationale ukrainienne, hein, je rappelle que la révolution nationale ukrainienne, c'est avec le départ de Yanukovych et aussitôt la Crimée est récupérée par les Russes dans les 2 mois. Donc en fait, il s'agit bien, c'est bien du revanchisme, il s'agit bien d'aller récupérer la Crimée. Et les morceaux du Donbass qui ont été perdus, et ceux qui ont été encore perdus entre-temps depuis 2022. Mais c'est bien, du point de vue astronomique, c'est bien la même dynamique. Et donc, avec la signature de ce deal, finalement, on se retrouve, semble-t-il, dans une forme de pérennisation de cet accroissement de la masse stratégique relative ukrainienne. Donc, a priori, il ne va pas y avoir de baisse de niveau des combats. Les Ukrainiens vont, à voir s'ils vont continuer à reculer un peu ou bien est-ce qu'ils vont réussir à repasser à la marche avant à terme. Je ne suis pas sûr que la fourniture d'armement américain suffise. Par contre, la question que ça va poser, c'est à quelle échéance les Russes vont estimer devoir escalader encore. Alors, l'autre jour, il y a Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, du Kremlin, qui a dit que la Russie était prête éventuellement à mobiliser comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, à mobiliser très largement des millions d'hommes, etc. Et Peskov a recité les chiffres de l'époque. Bon, alors il faut quand même remettre un petit peu cette citation dans son contexte, et son contexte, c'est que dans une semaine, il y a les célébrations de la Grande Guerre patriotique, et donc c'est assez classique que dans ce contexte-là, il soit fait référence à cette époque-là et qu'on dise ben, oui, on est aussi prêt à se battre qu'à l'époque et donc on pourrait mobiliser en masse. Bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a un moment où il faut faire attention à ce qu'on croit savoir. Et parmi les choses qu'on croit savoir sur la Russie, on croit savoir que Vladimir Poutine a peur de lancer une mobilisation parce que son régime serait fragilisé à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est une erreur. C'était probablement vrai il y a 3 ans. Probablement vrai à l'automne 2022, quand précisément il n'a pas mobilisé massivement, qu'il a uniquement mobilisé les réservistes. On rappelle que, il y a eu ces difficultés avec les 700 000 Russes qui avaient quitté le pays, etc. Déjà à l'époque, j'avais dit que c'était en Occident, ça faisait rire, on disait, regardez, tous les gens productifs s'en vont, etc. Mais il faut se rendre compte que pour un pays comme ça, pour un régime comme ça veut dire que vous allez avoir le pourcent, on va dire, de population le plus à même de vous résister ou le plus prompt à protester, à résister contre votre pouvoir, qui se purge de lui-même en quittant le pays. Donc, au contraire, c'est un avantage. Ça stabilise. Ça vous crée des problèmes économiques, de main-d'œuvre, etc. Mais ça stabilise fortement le régime. Et donc, c'est plutôt un gain net pour la stabilité d'un régime comme celui de Vladimir Poutine. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que donc on en est à plus de 3 ans de guerre maintenant. Et pendant ces 3 ans de guerre, vous avez eu tout le martèlement de propagande de guerre Et ça, un certain nombre d'analystes commencent à en parler de plus en plus. Vous avez une réapparition d'un militarisme russe extrêmement fort. Et arrive un moment dans une société qui est dans cette dynamique-là où vous pouvez lancer des mobilisations sans que ça s'agite trop. Et donc, je pense qu'il faut se sortir de l'idée que Vladimir Poutine ne pourra jamais mobiliser parce que les gens n'y sont pas prêts et qu'ils protesteraient. Je pense que c'est de moins en moins vrai, que ce réflexe-là de la société russe sera de plus en plus émoussé au fur et à mesure que la guerre continuera. Et ça encore, ça nous ramène aussi au parallèle que je fais souvent avec le Japon. Il faut se souvenir que c'est au bout de 3 ans de guerre au Japon que entre le guerre enfin en Chine pardon du Japon contre la Chine de guerre foirée hein, puisque ça s'était complètement alisé, c'est au bout de ces 3 ans de guerre qu'a été créé le Yokusankai, l'association de soutien à la puissance impériale, et que le pays a basculé véritablement dans la guerre totale. Donc, et vous savez ce qu'il en a été. Je vais vous rechercher d'ailleurs la date exactement de la fondation du Yokusankai. C'était voilà, le Taisei Yokusankai, l'association pour le soutien du trône, qui a été fondée le 12 octobre 1940. Afin de... Donc c'était en fait, ça transformait le Japon en dictature à parti unique, ce qui n'était pas encore tout à fait à ce moment-là. Et il faut bien se rendre compte que c'est un an après, un peu plus d'un an après, 1 an et 2 mois après, en décembre de 1941, que le Japon a décidé de faire le grand saut et de lancer l'escalade totale contre, je le rappelle, les deux premières puissances navales de l'époque, c'est-à-dire l'Empire britannique et l'Empire, enfin, et les États-Unis d'Amérique, ce qui a déclenché la guerre du Pacifique. Donc, je pense que voilà, ce vers quoi on risque d'aller à partir de maintenant, ça nous peut-être que ce deal finalement, ce deal sur les minerais, est ce qui nous oriente le plus en direction du scénario japonais. Encore une fois, parce que vous savez, il y a eu un flottement ces derniers temps. Comme depuis quelques mois, on se dit que peut-être il y aurait une sorte de Munich, hein, si cette paix se faisait, si les Russes avaient joué le jeu, parce que c'était pas totalement exclu. Ça me paraissait assez douteux, mais on disait qu'en Russie, vous aviez un parti des affairistes, on va dire, qui pouvait essayer de convaincre Vladimir Poutine d'au moins saisir cette paix, quitte à ce qu'elle soit très temporaire, le temps que l'armée russe se refasse. Et à ce moment-là, ça aurait plus ressemblé à une sorte de Munich et il y aurait pu y avoir d'autres mouvements d'escalade après. Là, vraisemblablement, ce n'est pas le cas. On va sur une continuation de la guerre par l'Ukraine. De plus en plus, en plus, comme les Européens essaient de monter en puissance, ben, ils seront capables aussi d'aider l'Ukraine à s'armer. L'Ukraine elle-même a reconstruit une base industrielle de défense qui fait que je crois que 40% des équipements qu'elle utilise viennent d'elle-même, ce qui pour un pays où l'essentiel de l'industrie de l'armement était situé à l'est au début de la guerre et qui a du tout déménagé est quand même pas mal du tout. Donc ça nous ramène, je pense, vers le scénario japonais. Et donc s'il y a escalade, je pense que ça sera une escalade par-dessus la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine ne s'arrêtera pas et qu'il y aura une escalade latérale, à savoir exactement dans quel délai. Sachant que là aussi, il y a des, comment dire, des facteurs contradictoires ou qui vont dans des sens inverses, par exemple. On pourrait penser que d'un côté, Vladimir Poutine aurait intérêt à attendre la fin du mandat de Donald Trump avant d'escalader, en se disant que Trump est un fou furieux et qu'il pourrait agir, etc. De l'autre côté, ça serait plutôt dans le genre élément qui ralentit. En plus, ça lui donnerait le temps de grignoter un peu plus d'Ukraine éventuellement. Mais dans le genre éléments qui peuvent accélérer, eh ben, il y a l'idée que doit avoir Vladimir Poutine que l'Europe est elle-même en train de monter en puissance et que si on laisse l'Europe monter en puissance comme ça, ben, la Russie n'aura plus aucun avantage dans sa prise d'avance avec sa base industrielle de défense pendant cette guerre. Et donc ça pourrait accélérer plutôt qu'autre chose. En même temps, il y a autre chose qui pourrait accélérer aussi, c'est que semble-t-il, dans les négociations autour de l'Iran notamment, Donald Trump a pas l'air très chaud pour partir en guerre contre l'Iran. D'après ce qui se dit, il cherche vraiment à privilégier la négociation d'un accord sur le nucléaire, ce qui pourrait envoyer aussi un signal supplémentaire de faiblesse à Vladimir Poutine, qui pourrait se dire, bon, il n'a pas voulu lâcher l'Ukraine, d'accord, il a fait son deal sur les minéraux, mais quand même, il voulait la paix et il n'a pas la volonté de se battre. Et donc, à ce moment-là, allons-y. C'est pas du tout impossible que ça tourne comme ça. En tout cas, voilà pour ce que change ou ne change pas. Si ça, disons que ça oriente plutôt vers un côté que de l'autre, la question du deal sur les minéraux. Autre point, justement, je parlais de l'Iran à l'instant, mais je vais en dire deux mots. Ça sera forcément moins long que sur le deal en Ukraine. Vous avez les violences qui ont repris, alors cette fois-ci pas contre les Alaouites comme il y a 2 mois, mais contre les Druzes du sud du pays, à la suite, alors semble-t-il, d'une histoire d'un prêche qui aurait été donné par un religieux druze qui aurait dit du mal de Mahomet, et donc ça serait parti à la claque. Ça fait déjà plus de 100 morts. Et donc, ce sont les. Et en plus, c'est semble-t-il véritablement les brigades du pouvoir, donc Ayatollah al-Cham, qui seraient à l'attaque. Pas sûr que Ahmed al-Shara favorise ça, mais on peut quand même se poser la question. Parce qu'en fait, la communauté druze, vous savez qu'il y a une partie de la communauté druze qui est Israël, qui appartient à Israël, notamment tous ceux qui sont sur le plateau du Golan depuis qu'il a été saisi. Et Israël a quand même ce côté un peu nos druzes, c'est-à-dire les druzes sont à nous. J'en vois l'émission que j'avais fait il y a quelque temps là-dessus, mais c'est vraiment le côté, ce qu'on appelle désormais sur le Telegram, le koinon levantin, c'est-à-dire cette espèce de ligue levantine, cette espèce d'idée que Israël peut apparaître comme une espèce de pôle qui chercherait à réunir tous ceux qui sont persécutés et qui cherchent une éventuelle protection. Et parmi ceux-là, et bien, vous savez qu'il y avait les Alaouites, enfin certains Alaouites qui avaient mentionné la possibilité de demander la protection d'Israël. Bon, on n'en a rien vu, mais c'est des choses qui pourraient finir par arriver. Et maintenant, donc, ce sont les Druzes du sud du pays qui sont en fait d'ores et déjà protégés par Israël, puisque Israël a lancé des frappes aériennes pour empêcher le pouvoir syrien d'avancer. Alors bien sûr, c'est pas juste pour les beaux yeux des Druzes. Il y a un intérêt stratégique israélien qui serait de faire en sorte que le sud du pays fasse une sorte de sécession, devienne une espèce de région autonome druze qui pourrait compter sur la protection d'Israël. Et tout ceci afin d'éviter que, vous savez que j'en ai parlé récemment, la grande peur d'Israël désormais, c'est de voir les Turcs arriver sur leurs frontières. Une Turquie très impérialiste désormais d'Erdogan, qui peut estimer avoir mis la main sur la Syrie via l'arrivée d'Al-Shara au pouvoir. Et donc, il peut y avoir un intérêt israélien à protéger les Druzes pour finalement créer une espèce de zone tampon pour éviter que les Turcs soient trop près. De l'autre côté, il est vraisemblable que les Turcs et le pouvoir et le nouveau pouvoir d'Ahmed al-Shara en Syrie considèrent que les Druzes, par nature, et justement par cette proximité possible, cette nature de minorité, cette proximité possible avec Israël, sont en soi une menace et donc doivent être préemptivement conquis manu militari, peut-être même désarmés au niveau de leur milice, afin de s'assurer que ben, cette zone ne devienne pas une espèce de zone tampon favorable à Israël. Donc c'est peut-être aussi une des causes de ce qu'on est en train de voir dans la région. Et dans ce cas-là, ça voudrait quand même dire quelque chose d'important. Ça voudrait dire que autant Israël donc hésite encore à aller frapper directement l'Iran, même si Trump arrivait à trouver un deal avec l'Iran parce qu'Israël a peur que l'Iran se dote de la bombe, autant la réalité aux frontières d'Israël, d'ores et déjà, c'est plus l'Iran le problème, en fait. Parce que le Hezbollah est quasiment démantelé, les forces armées libanaises du désormais président Joseph Aoun démantèlent petit à petit des caches d'armes du Hezbollah, etc. Donc le Hezbollah est vraiment en train de pratiquement s'évaporer. Et la Syrie elle-même n'est plus du tout aux mains des Iraniens, qui en sont expulsés. Par conséquent, d'ores et déjà, la confrontation est presque entre les Turcs et les Israéliens, même s'ils ont engagé des pourparlers pour essayer de se faire une espèce de partage de zones d'influence en Syrie, mais vraisemblablement, les Turcs veulent tout et ils sont en train de s'armer de plus en plus, d'installer des bases pour tenir le pays tout simplement. Et je rappelle qu'en plus, comme Ahmed al-Sharaa lui-même doit être, en tout cas comme, en tant que figure, est un petit peu le Bonaparte, donc l'impérialiste revanchard syrien, il pourrait servir de faux-nez, justement, pour attaquer Israël. Et d'ores et déjà, c'est pas impossible que ce soit ce qu'on voit dans les attaques contre les Druzes. Donc la Syrie va continuer d'être au cœur des luttes dans la région, mais c'est plus forcément l'Iran, l'acteur qui est en face d'Israël là-dessus. Enfin, pour terminer, il y a cette question du Pakistan. Alors, très honnêtement, quand j'ai enregistré le bulletin l'autre jour, je me suis dit que le sujet de ce vendredi serait, ou de ce week-end, serait, serait ben, peut-être les premières frappes qu'il y aurait eu entre l'Inde et le Pakistan. Et donc, on pourrait commencer à démêler un petit peu comment tout ceci allait se passer. Et ben parce que le porte-parole, le ministre de l'Information, pardon, du Pakistan a dit, c'était mardi dans la nuit de chez nous, dans la nuit de mardi à mercredi, a dit que l'Inde allait frapper, allait attaquer entre 24 et 36 heures. Avant ça, le ministre de la Défense du Pakistan avait dit qu'une attaque indienne était imminente. Il y a Narendra Modi, le lendemain, qui a dit que il a tenu un conseil avec ses militaires. Il a dit qu'il les avait autorisés à mener les frappes qu'ils estimaient nécessaires en représailles à l'attaque terroriste qui a fait 26 morts à Pahalgam. Et donc, à partir de là, on s'attendait à ce que ce soit immédiat. Il y a eu des gros exercices militaires des deux côtés, où chacun a voulu faire étalage un petit peu de sa puissance pour essayer de dissuader l'autre. Les Pakistanais, de leur côté, ont dit que ils n'utiliseraient pas d'armes nucléaires. Sauf si leurs intérêts, l'existence même de l'État en gros était menacée, ce qui était à la fois une forme désescalade pour éviter que l'Inde n'emploie les armes nucléaires la première, mais qui aussi d'une certaine manière est une invitation à la guerre conventionnelle. Donc tout ceci semblait aller dans ce sens-là, mais pour l'instant on n'a rien vu. Alors, il y a des violations de cessez-le-feu, il y a eu y compris des violations de cessez-le-feu sur la frontière internationale entre le Pakistan et l'Inde, et pas sur la ligne de démarcation au Cachemire. Donc ça, c'était relativement nouveau, mais voilà, il s'est rien passé de plus. Mais ça ne veut pas dire que les choses se sont arrêtées là. C'est vraisemblablement pas le cas. L'Inde est en train de faire donc pas mal d'exercices, de tests, de tirs de missiles, etc., pour vérifier que leur matériel marche aussi, donc vraisemblablement qu'ils n'étaient pas prêts à se battre, en fait, tout simplement quand l'attaque a eu lieu. Donc forcément, ils sont pris un peu au dépourvu, et bon, une semaine après, c'est un petit peu compliqué de se lancer à l'attaque de son voisin principal, même si on peut penser que c'est la principale mission de l'armée indienne que d'être capable d'entrer en guerre et de la soutenir avec le Pakistan. Mais bon, on sait qu'il y a aussi énormément de problèmes de corruption dans l'armée indienne. Ils ont souvent eu des problèmes comme ça sur leur projet militaire. Donc forcément, ça n'aide pas. Mais ça fait que voilà, sur toute la ligne autour du bloc eurasiatique, on voit des points chauds qui s'allument et qui vont probablement conditionner l'histoire de cette année 2025 pour sa deuxième moitié. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions, mon cher Léo? Léo? Allô?
Oui.
Oui, monsieur Portal.
Est-ce qu'on a terminé?
Je te demandais si nous avions des questions.
Je pense pas. Je fais un tour là, mais On nous dit ça passe crème ce nouveau setup dans Skype. En fait, Skype n'existe plus. On est sur Zoom là.
Il y a quoi qui a changé visuellement?
Rien. Non, mais il
D'accord.
dit qu'il n'y a plus de coupure et tout. Il y a plusieurs choses qui font qu'il n'y a plus de coupure. Je suis repassé par une configuration principalement filaire et surtout pas Bluetooth. Mais
Ouais.
sinon, on a fait ça à l'arrache là. Mais bon, oui,
Ouais.
c'est bien de savoir que ça marche. Que ça marche bien. Surtout. Non, écoute, il n'y a pas de questions. Hein. En tout cas, il n'y a pas de dons. Pas de questions. On va pouvoir passer au live privé. Et pour info, nous sommes à. Ah, toujours, il manque 46 abonnés pour être à 50 000. Voilà.
On les aura dans la nuit, probablement.
On les aura. On les aura dans la nuit, et même on les aura.
Et c'est
Voilà.
bien. Mais je vous rappelle que c'est sur votre soutien qu'on compte pour continuer la croissance de la chaîne et pour monter en nombre d'abonnés. C'est grâce au soutien à l'argent qu'on peut mettre dans les promotions, notamment, que la chaîne gagne en audience. Et je dois vous avouer qu'on a un plan comme ça pour essayer d'arriver à 100 000 à la fin de l'année. Mais que ce plan, on est en train de prendre du retard dessus, clairement parce que les gains de souscripteurs qu'on espérait avoir en augmentant l'assiette, on va dire, du nombre total d'auditeurs de la chaîne, eh ben, ils suivent pas à la même vitesse. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de soutenir la chaîne pour faire partie de l'aventure vers les 100 000. C'est vraiment, vraiment le bon moment. Voilà.
Concrètement, ouais, souscrivez via Tipeee ou via YouTube, ça vous donne accès pour 10 ou 20 euros par mois à des heures de contenu en plus par mois. Donc, c'est 4-5 heures en plus par mois. Donc, allez-y. Et là, surtout, Philippe, je vais te tendre un petit piège. Qu'est-ce qu'il y a le 15 juin? Là, je te laisse en parler toi parce qu'en fait, il vaut mieux que t'en parles toi parce que je pense
Alors
que les
le
gens
15
iront plus.
juin,
Ouais.
il y a la première journée congrès historionomique, en fait, au cours duquel il y aura plusieurs conférences. A priori, je vais en donner deux. Et ce sera l'occasion de rencontrer tous nos chers souscripteurs qui seront là, sans doute certaines des stars du chat qui seront présents, nos plus fidèles soutiens. Vous pourrez les rencontrer, on pourra se rencontrer aussi. Ça sera l'occasion d'avoir des discussions un petit peu qui sortiront de ce qu'on dit exactement d'habitude, d'explorer certaines autres choses et de faire vivre ça, parce que si ça se passe bien, ben on espère que ça deviendra un rendez-vous régulier qui pourra avoir lieu peut-être chaque année, on verra ça. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être une belle journée. Il y aura l'inscription comprend la présence aux conférences, mais il y aura également à manger, donc il y aura le repas, il y aura tout. C'est vraiment, voilà, c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour financer la journée, pour que la journée soit vraiment bien. Et on a des gens qui ont déjà fait beaucoup de travail et de sacrifices pour amorcer la pompe un peu de la journée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Il y a une date butoir pour s'inscrire. Il y a une centaine de places. Il y a déjà une bonne partie qui sont parties. Donc, si vous voulez avoir la vôtre, dépêchez-vous. Et pour l'instant, je crois que c'est 50 € et ça passera à 70. Je ne sais plus à quelle date, Léo. C'est
Tout
le
à
1er juin?
fait, j'essaie de capter, je crois que c'est beaucoup plus
Même
tôt que
mai?
ça. Beaucoup plus tôt que ça. Demain, le prix passera à 200 euros par place. Demain, c'est-à-dire dans 2 heures, dans 1h15. Non, effectivement, jusqu'au 20 mai. Jusqu'au 20 mai, c'est 50 euros par personne. À partir du 20 mai, ce sera 70. Et il reste une quarantaine de places. Donc, on en a vendu plus de la moitié. Effectivement, comme Philippe l'a très justement dit, il y a pas mal de gens qui ont fait des sacrifices pour nous aider dans l'organisation, évidemment. On les remercie. Moi, je travaille avec eux régulièrement. Donc,
On remercie notamment Monsieur A.
tout à fait, Monsieur A, qui n'arrête pas de se montrer indispensable et qualitatif.
Voilà. Et nous avons une pensée également pour notre ami Iruma aujourd'hui, qui est un petit peu dans l'épreuve et que nous saluons avec toute l'amitié que nous avons pour lui.
Alors, attends. Je suis désolé. Je pense que tu vas pouvoir. J'ai perdu ton son. Parle, Philippe.
Oui, je suis là.
Ah, ok. Je sais pas si les gens t'ont entendu. Est-ce que tu peux répéter?
Oui, alors je disais que nous avions également une pensée pour notre ami Hiruma, qui est un petit peu dans l'épreuve aujourd'hui, je disais, et auquel nous envoyons toute notre amitié et notre sollicitude, et je ne doute pas que vous le faites avec moi.
Tout à fait. Pensez à Iruma, le boss, qui peut compter sur des centaines d'âmes qui renforcent la sienne aujourd'hui
Voilà,
dans ces
nous
épreuves.
sommes un peu son Genki-Dama émotionnel.
À fait. Voilà, en fait, je suis pas sûr de t'avoir pas coupé le son. Ah, ils ont entendu, ok. Parce qu'en fait, j'essayais d'afficher l'affiche quand on parlait du truc, comme tu as parlé d'Iruma après. Mais du coup, là, si j'affiche l'affiche. Au moins ils la voient, mais je sais pas si ils t'entendent pas. Mais moi ils m'entendent moi. Donc voilà, je parle moi. Voici l'affiche. Comme vous voyez, 50 € jusqu'au 20 mai, 70 après. C'est un prix qui n'est pas rien, mais bon, c'est pour financer effectivement l'organisation. Comme vous voyez, il y aura un petit déjeuner, un déjeuner, des pauses café. On aura un jardin en fin de journée pour donc après 17 h pour passer quelques heures encore ensemble avant de se quitter. Et comme l'a très justement dit Philippe, je reviens sur la scène avec Philippe. Il y aura effectivement pas mal de stars du chat. À commencer par moi. Voilà.
Non, mais c'est vrai, il faut, c'est le genre de choses qu'il faut dire.
C'est vrai. Voilà. Bon, bah écoute, on va pouvoir passer au live privé.
Ouais, et
UFO Motion demande ce que c'est l'historionomie. Juste clique sur la chaîne. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et il y a une vidéo dans l'en-tête de la chaîne qui présente ce que c'est. Qui fait, je
voilà.
crois, 3 minutes.
Voilà.
Donc.
Et de manière pour un exposé non exhaustif mais global de toute la théorie, il y a la vidéo La mécanique de l'histoire qui date d'il y a à peu près 2 mois, qui elle fait 3 heures. Voilà. Donc 3 minutes plus 3 heures, ça fait.
Et j'ai envie de dire, est-ce que si vraiment on a envie vraiment de savoir ce que c'est. Il y a une dizaine de livres à se procurer dès ce soir. Picard 7, le boss Picard 7 demande. Oui, merci Brise, je vais le lire, t'as raison. Est-ce que Philippe Fabry sera présent à l'événement?
Oui, puisque je donnerai deux conférences,
Mais.
mais je ne serai pas là. Ça, ce sont.
On testera la nouvelle technologie J'ai oublié comment ça s'appelait. Comment ça s'appelle déjà ces trucs-là?
Les hologrammes,
Ouais, des hologrammes, j'ai vu que ça avait avancé la
comme
techno.
Mélenchon.
C'est ça. Mais puis je voulais citer Picard parce que Picard 7 et le Trompa et un petit peu mon assistant de l'humour. C'est un compliment que je fais là. La bête du Gévaudan demande c'est quand la prochaine vidéo où Philippe présente ses livres? J'ai eu un tic quand
Oui.
j'ai lu ça. Ben on le
Alors ça, il
fera.
faut voir ça, oui, parce que j'avais fait une et Léo m'a dit que c'était vraiment une vidéo pourrie et il m'en avait voulu de la publier sur la chaîne, mais voilà.
C'est vrai. Elle est encore publiée d'ailleurs? Je pense que oui.
Elle est toujours. Oui, mais il y a pas Il César dedans. Je pense qu'il y a. Ouais,
De toute façon, il
faut pas.
faudra qu'on refasse tout ça quand,
Ouais.
quand Philippe m'ouvrira son agenda, n'est-ce pas?
Oui, il faut que oui.
Alors, on remercie Brise pour son don et il nous dit on veut les 50K. On veut tous les 50K. Et si 50K pouvait y avoir un euro après le K,
C'est ça, voilà.
50K euros. Et on va les trouver, on va les trouver. Voilà, bah écoutez, à tout de suite, hein, Philippe, je te laisse conclure.
À tout de suite, chers souscripteurs. Les autres, bah, n'hésitez pas à devenir souscripteurs pour poursuivre la soirée avec nous. Sinon, allez faire un petit tour sur la chaîne si vous la découvrez, partagez, commentez pour le référencement, c'est le mieux.